Cette machine, c'est celle qui changera le plus notre vie dans l'avenir.
C'est pour aujourd'hui, pour demain.
Qu'est-ce qui a changé ?
La révolution numérique va-t-elle faire disparaître le chauffeur, voire même le propriétaire du véhicule automobile ? La question se pose alors que les nouvelles technologies ont déjà rendu nos voitures intelligentes, les rendent maintenant connectées et bientôt autonomes, c'est-à-dire sans avoir besoin de tenir le volant. Mais dans des villes de plus en plus congestionnées et préoccupées par l'environnement et où la détention d'un véhicule est une charge économique pour une utilisation réduite, l'utilisation même de la voiture est en train de changer. On apprend à la louer, à la partager ou à ne plus la posséder. Alors qu'on a longtemps cru que le véhicule de l'an 2000 volerait, il est bien resté au sol. Mais si la voiture qui nous a tant fait rêver ne devenait plus qu'un moyen de se déplacer parmi d'autres ? Pour en parler avec nous ce matin, Guillaume McCain, directeur associé d'Innov360, société de conseil sur la transformation numérique. Bonjour.
Bonjour.
Kevin Degnaud, porte-parole de Blablacar, la société française devenue internationale de covoiturage. Bonjour.
Bonjour.
Et puis Simon Mancarelli, co-fondateur et directeur de XYT, société qui produit des véhicules électriques personnalisables. Bonjour.
Bonjour Didier.
France Inter, c'est pour aujourd'hui ou pour demain. Didier Siamour.
L'émission est réalisée en partenariat avec le quotidien Le Monde, avec qui nous commençons d'ailleurs. Alors Morgane Tual, vous êtes journaliste au Monde. Vous écrivez sur la révolution numérique dans la rubrique Pixel. Et on pourrait croire que vous avez vu ou revu récemment le film Christine de John Carpenter, vu ce que vous nous avez préparé.
Eh bien oui Didier, pensez-vous que votre voiture sera programmée un jour pour vous tuer ? C'est une question très sérieuse qui se pose déjà avec l'émergence des voitures autonomes. Car non, les voitures sans conducteur ne sont plus de la science-fiction. La plus célèbre, celle de Google, roule déjà sur les routes américaines. En 7 ans, elle a parcouru plus de 2,5 millions de kilomètres quasiment sans encombre. Et l'entreprise l'assure, ce type de véhicule pourrait réduire de façon drastique le nombre de tués sur les routes. Seulement voilà, des tués, il y en aura. C'est ce qui arrive quand on lance des bolides d'une tonne à 50 ou 100 km/h dans les villes ou dans une autoroute. Et là se pose une question très difficile et très concrète pour les fabricants de ces voitures autonomes. Comment choisir qui va mourir ?
Donnez-nous des exemples.
Alors par exemple, une voiture peut se retrouver dans une situation qui ne lui laisse que deux choix. Tuer 5 piétons ou se jeter contre un mur et ne tuer que son passager. Dans cette situation, un humain au volant n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'il va faire. Il agit et c'est tout. Mais une voiture, elle, devra être programmée par avance pour savoir comment réagir dans ce type de situation. Quand on confronte des humains à ce problème, ils ont tendance à approuver le sacrifice d'une vie pour en sauver 5. Ok pour une voiture tueuse donc, mais pas pour moi. Car selon une étude publiée en juin dans la revue Science, même si les humains approuvent ce type de décision, ils n'ont pas très envie d'acheter une voiture qui pourrait décider de les tuer.
Normal.
Normal. Et bien évidemment, leur point de vue vacille également quand un membre de leur famille est impliqué. Mais alors, comment programmer la voiture à réagir de façon éthique dans tous les cas qui pourraient se présenter ? Par exemple, la voiture doit-elle sacrifier deux vieillards ou bien deux enfants ? Doit-elle épargner les femmes enceintes ? Vaut-il mieux tuer un homme d'affaires ou un médecin ?
Mais alors si un piéton traverse en dehors des clous ?
Eh bien justement, les questions sont infinies. Et les chercheurs vous proposent d'ailleurs de vous y confronter sur un site, moralmachine.mit.edu. Alors attention, je vous préviens, ce site est cruel, à chaque clic c'est un peu le choix de Sophie. Il paraît donc impossible pour un algorithme de prendre en compte tous ces critères, d'imaginer les multitudes de scénarios qui peuvent se présenter à lui. Et puis au final, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on doit attribuer des points en fonction de la valeur d'une vie ? Et si oui, qui doit décider de cette valeur ? Est-ce que c'est le fabricant ? Est-ce que ce sont les autorités ? Ou pourquoi pas le propriétaire de la voiture lui-même ? Car aujourd'hui, c'est quand même bien lui qui est maître de son véhicule et qui a donc le pouvoir de tuer. Les chercheurs s'interrogent aussi sur le rôle des gouvernements dans cette question. Doivent-ils ou non intervenir pour imposer ces normes ? Eh bien, la conclusion de leur étude est très ambivalente. D'un côté, ce type de régulation pourrait s'avérer nécessaire pour minimiser le nombre de tués sur les routes, mais de l'autre, elle pourrait aussi limiter le développement des voitures autonomes, puisque les consommateurs ne voudraient pas les acheter. Or, s'ils ne les achètent pas, alors le nombre de tués restera élevé. C'est encore un dilemme de plus.
Oui, une forme de cercle vicieux. Merci beaucoup.
Je pense que dans l'état actuel de la technique, il est prématuré de parler de ces solutions extra-révolutionnaires. Pour l'instant, je dois vous dire que je n'y crois pas. Parce que dans l'état actuel de la science et de ses techniques, ces solutions sont très difficilement applicables.
Alors messieurs, la sécurité, hein, c'est une question majeure pour la voiture. 3461 personnes sont décédées sur les routes en France en 2015, soit une hausse de plus 2,3% par rapport à l'année 2014, et l'augmentation a dépassé les 10% encore en mai dernier. Est-ce que les nouvelles technologies d'abord rendent les voitures plus sûres? Selon vous, Guillaume McCain par exemple?
Alors effectivement, pour répondre à votre question sur est-ce que les nouvelles technologies, je dirais, améliorent
sachant,
la sécurité.
Sachant que 90% des accidents sont dus aux facteurs humains, généralement.
Oui, alors c'est effectivement, on peut faire ce constat-là. On peut également, je dirais, rappeler aussi que les constructeurs automobiles et les différents, je dirais, organismes étatiques réfléchissent à améliorer cette sécurité grâce aux nouvelles technologies, typiquement en apportant un nouveau service dès 2018. Qui s'appelle l'e-call, qui permettra a priori de diminuer de 10% les accidents. Donc si on prend vos statistiques, c'est près de 400 accidents en moins ou mortels par an. Donc de toute façon, les technologies vont pouvoir améliorer et améliorer cette sécurité. Après, effectivement, on peut faire le grand écart avec les voitures autonomes et ce qui s'est passé récemment. Maintenant, on n'y est pas encore. C'est-à-dire que il y a des étapes à franchir avant de démocratiser à grande échelle ces véhicules autonomes, complètement intelligents. Il faut déjà passer par un certain nombre d'étapes.
Simon Moncarelli, quand on conçoit comme ça des voitures, on reviendra tout à l'heure sur votre activité, est-ce que c'est une des priorités de la sécurité justement avec les nouvelles technologies?
Bien sûr, la priorité est vraiment la sécurité est notre priorité absolue. Maintenant, je pense qu'il faut faire confiance à l'homme aussi. Le véhicule autonome, effectivement, c'est quelque chose qui va arriver un jour. On brandit toujours la question plus de sécurité grâce à cette technologie, mais je pense qu'il faut aussi se poser la question du conducteur. Mmh. Et on aura toujours besoin d'un conducteur. Les voitures complètement autonomes, c'est quand même encore de la science-fiction, même si ce n'est pas un problème technologique, c'est plutôt un problème législatif.
On va y venir. À Blablacar, le facteur humain est important, imagine. Donc en effet, c'est le conducteur. Comment on appréhende ce facteur-là?
Justement, on s'est rendu compte, en effet, on n'est pas encore dans les voitures autonomes, il y a des vrais conducteurs qui roulent actuellement, peut-être même aujourd'hui en écoutant la radio. On s'est rendu compte, sur BlaBlaCar, on a fait une étude l'année dernière, et on s'est rendu compte que le covoiturage avait un impact positif sur le comportement des conducteurs. Il y a deux raisons qui expliquent cela. La première, c'est tout d'abord le fait d'avoir des passagers à bord responsabilise le conducteur. Et deuxièmement, on sait qu'une des première cause mortelle sur autoroute, c'est l'endormissement au volant. Eh bien, le maintien éveillé, parce qu'on discute, parce que c'est convivial, tous ceux qui ont fait du covoiturage pourront me rejoindre sur ce point. Et le deuxième facteur qui justement permet aux covoitureurs de rouler mieux que la moyenne, c'est que sur BlaBlaCar, je ne sais pas si vous savez, on est noté, c'est-à-dire que le conducteur et les passagers se laissent des avis réciproques à la fin de chaque trajet. Et ce facteur de notation, il est important parce que un conducteur qui sait qu'il va être noté va spontanément et instinctivement conduire d'une meilleure manière. On s'est rendu compte que il râlait moins au volant, il vérifiait plus la pression de ses pneus, il conduisait moins vite. Moi, je me suis rendu compte une fois que j'ai envoyé un texto alors que j'étais à l'arrêt, mais au volant quand même, et j'ai eu un avis négatif. Et donc, du coup, ça m'a incité à ne plus jamais envoyer de texto au volant. Donc voilà, on voit l'effet positif du covoiturage.
Comme quoi, la pression de la note, hein, ça nous suit même au volant. La voiture a été l'un des symboles du XXe siècle. Sera-t-elle au XXIe siècle? Ou doit-on se préparer à un nouveau monde? Le titre du morceau interprété par Octave Noir.
100 millions d'années, une seconde, une éternité pour faire un monde. 100 millions d'années. seconde. Une éternité. Cent millions d'années.
Verra-t-on demain sur nos routes des voitures radioguidées comme celle-ci ?
Bien sûr. Nous avons démontré sur notre piste que la faisabilité était correcte. Maintenant, il faut des infrastructures. Cela coûte très cher. Et je crois que ce n'est pas encore dans un temps relativement court que le pilote pourra s'asseoir à l'arrière de son véhicule avec un journal.
En 1980, les ingénieurs développaient déjà des véhicules capables de circuler sans chauffeur, mais a priori pas sur le réseau routier standard. 36 ans plus tard, le rêve est devenu presque réalité. Le pilote va sans doute pouvoir venir s'asseoir à l'arrière pendant que la voiture roule.
Conduire sans les mains et du coup regarder un film ou participer à une visioconférence avec un collègue. Ce sera peut-être bientôt possible. Pour le moment, ces voitures sont testées sur des circuits. Des prototypes autonomes et intelligents.
Ici, j'ai croisé un panneau qui me parle d'un concert. Je peux acheter des places, hop, je les achète et elles descendront en étiquette sur mon smartphone.
À l'aide de caméras ou de capteurs, la voiture connectée est capable de repérer les obstacles comme ce piéton et donc de freiner. Oubliez également les galères du créneau. Il suffit d'un geste sur son téléphone pour que la voiture trouve une place libre et se gare toute seule. Mais certains automobilistes s'inquiètent de la sécurité.
Ça doit être opposant, hein, c'est sûr. Mais bon, faut toujours rester attentif, quoi qu'il en soit.
Si on a une voiture, c'est pour s'amuser avec un petit peu de temps en temps. Puis rouler, non ?
Et oui, la voiture sans chauffeur, c'est donc de moins en moins de la science-fiction, comme l'ont montré Google et Tesla aux États-Unis. En France, un modèle Zoé de Renault et une Citroën C4 Picasso sont testés sur le même principe depuis l'an dernier, et parfois même dans le trafic, par exemple à Versailles. De nombreux acteurs du marché automobile programment pour 2020 la commercialisation de ce qu'on appelle la voiture autonome. Pour analyser cette prochaine révolution annoncée, en studio avec nous ce matin, Guillaume McCain, directeur associé d'Innov360, Simon Mancarelli, directeur de XYT, et Kevin Degnaud de Blablacar. Alors messieurs, est-ce que cette date de 2020 vous paraît plausible, Guillaume McCain?
2020, c'est dans 4 ans.
Oui.
Il y a déjà des initiatives avec des véhicules autonomes à Versailles, vous l'avez cité, mais pas que, y compris dans d'autres pays. Après, ça reste des initiatives locales. Le déploiement en 2020, en toute transparence, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, il y a des étapes à franchir. Aujourd'hui, je pense qu'il faut plutôt ramener ça à un besoin des usagers. Il y a un rapport au véhicule qui a changé. On n'achète plus un véhicule, aujourd'hui on achète de la mobilité. La pièce maîtresse indispensable chez l'usager, c'est le smartphone, c'est le téléphone portable. Je me déplace avec mon téléphone portable. On consomme différemment, on travaille différemment,
on se déplace différemment. Si vous voulez bien, mais est-ce que, parce que jusqu'à preuve du contraire, en tout cas pour l'instant le téléphone portable peut vous assister si vous êtes en voiture, mais est-ce que pour l'instant le smartphone ne conduit pas encore la voiture ? Est-ce que la voiture, en tout cas sans chauffeur, pour 2020, est-ce qu'on va pouvoir aller chez un concessionnaire acheter une voiture sans chauffeur ?
La technologie, elle existe. La technologie, c'est pas un problème technologique, c'est un problème réglementaire, c'est un problème politique.
C'est un problème d'infrastructure. Je pense que typiquement véhicule autonome pourrait être déjà dans un premier temps adapté pour des boucles fermées, ce qu'on appelle dans des enceintes fermées. Typiquement, j'arrive à l'aéroport, je dépose mon véhicule au dépose minute et automatiquement elle va se garer toute seule. Dans des schémas et des cas d'usage moins anxiogènes pour le conducteur. Là, oui, ça sera possible, peut-être dans 4 ans ou dans 5 ans. Déployer des véhicules autonomes dans la rue, autour de chez nous, sur les autoroutes, sur les nationales et départementales, on n'y est pas encore.
Chez XYT, où vous développez un véhicule personnalisable, modulable, comme vous le disiez, électrique et durable aussi, est-ce qu'on intègre déjà dans le développement cette évolution vers la voiture autonome ?
Nous, on a une approche ouverte, en fait. Notre philosophie, c'est de permettre à des partenaires de pouvoir innover sur notre plateforme. Donc, le véhicule autonome est une forme d'innovation et on a des partenaires aujourd'hui qui sont intéressés pour développer leur technologie sur la base de nos véhicules. Donc, est-ce qu'on aura des Pixel XYT autonomes dans le futur ? Oui, même dans un futur proche, certainement, parce que, comme vous le disiez, les technologies sont déjà là. Mmh. On est capable de faire beaucoup de choses. Hein. On envoie des sondes très loin dans l'espace et on est capable de les faire atterrir. Pourquoi on n'arriverait pas à conduire un véhicule ? Donc ça, c'est vraiment pas une question technologique. Je pense que les problématiques aujourd'hui, c'est effectivement une problématique législative, mais également une problématique de coût. Parce que si en 2020 on peut acheter un véhicule autonome, il va falloir qu'on puisse se le payer. Donc ça c'est aussi un autre problème qu'il faut résoudre et les technologies vont certes venir progressivement et devenir de plus en plus accessibles. Et
chez Blablacar, où vous développez vous sur le covoiturage, quand on vous dit en 2020 il y aura des voitures autonomes, c'est-à-dire que votre business il est mort ?
Non, parce que c'est pas parce qu'il y a plus
de conducteurs
qu'il y a plus de coûts dans les voitures. Donc pour nous, ça change finalement pas beaucoup de choses. C'est-à-dire que ça coûtera toujours de l'argent d'acheter, d'entretenir et de se déplacer avec une voiture. Donc nous, voilà, on est toujours dans cette logique d'optimisation des coûts. Donc qu'il y ait un chauffeur ou pas, finalement, voilà, ça va coûter. Il y aura toujours à partager. Et on part d'une logique économique, mais également en termes de convivialité et d'écologie. Le covoiturage restera toujours une façon, justement, de se déplacer, de partager sa voiture, qu'elle ait un conducteur ou non d'ailleurs.
Oui, surtout comme le disait Simon Carrelli, en plus les voitures risquent de coûter un peu plus cher. On assiste quand même à un véritable engouement hein, pour ce projet de voiture autonome qui nécessite de lourds investissements, avec quand même des ratés comme en mai dernier.
Avril dernier, un Américain poste cette vidéo pour montrer comment sa voiture, équipée d'un système de pilotage automatique, évite toute seule un camion. L'homme conduit ce genre de voiture, une Tesla S. Un mois plus tard, le 7 mai, sa voiture, cette fois, s'encastre dans un autre camion. Et l'homme meurt. Les caméras du pilote automatique n'ont pas fait la différence entre un ciel blanc ce jour-là et le camion blanc.
Et on l'a entendu hein, au début dans la chronique de Morgan Tual et maintenant dans cet extrait de journal qui a été diffusé en juin dernier. Avec les technologies, la sécurité n'est pas forcément garantie en fait, Guillaume McCain.
Alors sur l'accident qui a été cité, je pense que pour l'instant on n'en connaît pas encore exactement les raisons. En tout cas, la sécurité elle est jamais garantie à 100%, même quand vous conduisez elle n'est pas garantie.
Peut-être moins, mais c'est la question.
La vraie question c'est que vous en maîtrisez potentiellement une partie de la réduction du risque. Alors que sinon, vous laissez complètement la maîtrise de ce risque-là à de la technologie à 100%. Et c'est là la vraie différence. Est-ce que vous êtes prêt à laisser cette maîtrise du risque à la technologie ou est-ce que vous voulez en conserver une partie ?
Oui, vous vouliez tout à l'heure réagir, Simon Carrelli.
La question du véhicule autonome, c'est de dire qu'est-ce que devient cet objet ? Parce qu'une voiture, on la conduit, mais à partir du moment où on la conduit plus, ça devient un autre objet. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il faut se poser la question de quels usages. Parce que pour moi, le véhicule du futur est avant tout un véhicule utile qui doit répondre à des besoins. Et là, c'est des besoins bien humains cette fois-ci, que ce soit pour travailler, que ce soit pour se déplacer, pour transporter des biens. Il faut repenser réellement cet espace-là qui devient un espace mobile dans lequel on peut faire différentes choses.
Et avec cette notion, comme le disait tout à l'heure Guillaume McCain, de service, mais on va revenir dessus. Avant de devenir autonome, les voitures sont quand même été déjà des voitures ou sont devenues ces dernières années des voitures connectées. On assiste à une multiplication des services développés pour les véhicules. Chaque jour, des start-up lancent une nouvelle application, un nouveau logiciel qui se veut innovant. Citons Oucar ou Drust, par exemple, avec leur boîtier pour optimiser la conduite, la consommation en carburant. Et avec deux approches, souvent d'ailleurs, des systèmes embarqués et donc équipant les voitures. Et tout simplement le smartphone aussi, qui devient un outil pour assister le conducteur. Est-ce qu'il y a en fait deux écoles dedans, d'ailleurs, Guillaume McCain ?
Est-ce que c'est deux écoles, celle qu'on branche sur la voiture, le système qu'on branche, ou le smartphone, vous le disiez tout à l'heure, qu'on balade partout?
Deux écoles. Je pense qu'il ne faut pas les opposer. C'est des extensions naturelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rapport à la voiture, il a changé. La voiture, elle, avec les générations qui sont en train d'arriver, n'est plus un objet de convoitise. Ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est plus un objet de symbole de statut social. Les jeunes de 25, 35 ans n'ont plus le même rapport à la voiture. Donc ça, c'est très, très important. Ils recherchent de la mobilité simple, rapide, pas chère et confortable. Donc c'est vraiment un équilibre entre le gain d'argent, entre le gain de temps et puis le confort. Si l'intégration de cette technologie est faite complètement dans l'habitacle, très bien. Si elle m'apporte un service, très bien, on prend. Si par contre ce service m'est proposé via un téléphone portable, très bien, parce que je l'ai sur moi, donc c'est d'autant plus pratique. Donc c'est là où c'est toute la différence, c'est que c'est vraiment le téléphone portable qui devient la télécommande urbaine de mon déplacement. Beaucoup plus que la voiture. Et la voiture, finalement, n'est plus le même type d'objet. J'achète du déplacement, j'achète de la mobilité, j'achète un service.
Alors avec tous ces systèmes, quand même, se pose souvent à l'heure des objets connectés la question de la data. Que fait-on de toutes ces données laissées par l'utilisateur? Exemple avec la société Eliscar qui a lancé une application censée nous aider à savoir si chacun d'entre nous était un bon ou un mauvais conducteur et pas un bon ou un mauvais chasseur. Il s'agit donc de nous pister à partir de notre portable sur lequel nous avons téléchargé l'application qui relève également de ce que font les véhicules autour de nous. Mais ces données, qui en a la possession? Réponse du fondateur d'Eliscar, Jonathan Bidbass.
Propriétaire des données, c'est bien l'utilisateur, le conducteur. Elles sont totalement confidentielles, lui seul peut y accéder. Il y a de nombreux assureurs qui sont déjà venus nous voir, surtout pour les assurances qui se lancent dans l'objet connecté et le véhicule connecté pour pouvoir adapter la prime d'assurance en fonction de la qualité de conduite des conducteurs. Et c'est vraiment un gros enjeu qui va vraiment révolutionner le monde de l'assurance automobile. Selon les pays, on a des cultures différentes et donc on aura des attentes vis-à-vis de la data et de la confidentialité de ces données-là. C'est vrai qu'en France, on va être plus réticent qu'en Angleterre ou qu'aux États-Unis. Maintenant, les jeunes générations sont beaucoup plus ouvertes à l'idée d'être traquées. Notre objectif, c'est de vous aider à réduire vos risques et donc de réduire le risque d'accident. Donc on vient pour vous sauver la vie quelque part.
Alors, il était interrogé par Béatrix Moreau au salon Viva Technologie en juin dernier à Paris. Donc, le chauffeur est propriétaire de ses données, si on l'entend, mais la société vend son service aux assurances. Cela signifie-t-il que je vais accepter de m'équiper sur la base du volontariat auprès de ma compagnie d'assurance? C'est quand même très bizarre, non, Guillaume Macaigne?
Si ça peut m'apporter un service et une prime d'assurance intéressante, pourquoi pas? Je pense que, encore une fois, je rejoins ce que disait mon voisin Simon. À partir du moment où ça m'apporte un service, je pense que la donnée et qui est propriétaire de la donnée, c'est un faux débat. On le voit bien avec LinkedIn. Chacun est prêt à partager ses données sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que ça apporte un vrai service. Donc, il faut se focaliser sur le service. Et à partir de ce moment-là, je suis prêt à partager ma donnée si elle m'apporte une réelle valeur ajoutée.
La question à Blablacar. Aujourd'hui, vos utilisateurs, vous avez de la donnée sur eux, forcément, parce qu'ils s'enregistrent, mais après, ils disent où ils veulent aller, il y a un suivi, en plus, on se connecte avec les applications. Vous en faites quoi de cette data?
Cette data, ces données, elles servent avant tout à améliorer le service. C'est-à-dire que sur Blablacar, c'est une question aussi de modèle économique. C'est-à-dire que pourquoi il y a un système de paiement à la transaction sur Blablacar, que c'est le passager qui paye des frais de mise en relation? C'est justement parce que notre modèle économique, c'est ça. Il n'y a pas de vente ou de revente de données d'utilisateurs. C'est la stratégie de Blablacar. On est très soucieux justement de ne pas de respecter la vie privée des gens et de ne pas vendre les données de nos utilisateurs. Donc c'est pour ça que ce modèle économique est le suivant.
Un classique sorti il y a 27 ans déjà, dans lequel il ne parlait pas de voiture, malgré le titre, She Drives Me Crazy, Femme Young Cannibal sur France Inter.
Olivier Siamour sur France Inter, c'est pour aujourd'hui ou pour demain?
Et à propos d'aviation, livrons à l'admiration des foules ce dernier modèle qui pourrait figurer aussi bien au salon de l'aviation qu'au salon de l'auto. Inutile d'ajouter que ce curieux engin nous vient en droite ligne des États-Unis, où l'on n'est pas habitué à reculer devant une innovation. C'est très simple, comme on le voit, il suffit de retirer l'hélice et de décrocher l'empennage. Il vous reste une charmante petite caisse sur quatre charmantes petites roues et vous disposez immédiatement d'une bonne voiture qui tient du landau surbaissé et de la planche à roulettes, chère à toutes nos enfances. Et pourtant, comme disait l'autre, elle roule.
L'avion-voiture, le véhicule multifonction, il était déjà donc présenté en 1946 à Paris, hein, sans avoir eu un grand succès, il faut le dire. Mais le multifonction, c'est un concept qui s'inscrit, lui, dans la durée ou qui revient au XXIe siècle pour la voiture, avec cette idée qu'elle devient en fait de plus en plus un service plus qu'un bien à détenir. Vous le disiez tout à l'heure, Guillaume McCain, un de nos invités de ce matin sur le thème dont nous parlons, qui est consacré à l'évolution de la voiture dans la transformation numérique, et avec Simon Mancarelli, donc directeur de XYT, société qui produit des véhicules électriques personnalisables. Et cette multifonction, c'est un des principes qu'a lancé, en fait, qui a participé au lancement de vos véhicules.
Oui, tout à fait. Nous, on conçoit des véhicules modulaires qui permettent d'être personnalisables et évolutifs. Par contre, le point de départ, c'est réellement un besoin. C'est le besoin de l'usager, du conducteur, on parlait de service tout à l'heure. Effectivement, ça part du besoin. Si on conçoit des véhicules, l'exemple de la voiture volante, c'est un bon exemple parce que quelque part, il n'y a pas réellement de besoin aujourd'hui en face de ça. Donc, notre priorité, c'est de créer des véhicules qui soient utiles pour nos clients.
Et alors, comment on le décline?
Donc, on le décline aujourd'hui, on a trois plateformes. Une qui permet de faire des usages plutôt utilitaires, c'est un petit utilitaire type Kangoo. Une autre plateforme qui est plutôt pour de la mobilité individuelle, l'équivalent d'une Smart. Et enfin, une navette qui va permettre de transporter jusqu'à 7 personnes. Donc, c'est de pouvoir répondre à de multiples usages, mais en utilisant un maximum de pièces communes pour permettre une maintenance et une réparation simple, de pouvoir faire évoluer ces véhicules dans le temps, parce que les technologies se développant rapidement, il faut pouvoir créer des véhicules qui ne sont pas obsolètes trop rapidement. Et que justement, les gens investissant dans un véhicule, qui plus est un véhicule électrique, qui est quand même plus cher qu'un véhicule classique, il faut s'assurer que ce véhicule-là va rester pertinent dans le temps. Et on voit aujourd'hui, typiquement, quand on regarde l'actualité, au début du mois, il y a la mesure dans Paris qui interdit les véhicules de plus de 20 ans à pénétrer dans le centre parisien. C'est une réelle problématique pour les artisans, les commerçants qui ont des réels outils de travail dans leurs véhicules. Donc nous, notre priorité, c'est de répondre à ce besoin-là avant de faire de la science-fiction, on va dire.
Donc, en tout cas, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a la même base et après, on adapte, d'où ce concept de modulable. Et si on veut l'utiliser comme un utilitaire ou comme un véhicule particulier pour du transport, on peut tout changer, mais c'est la base qui est commune.
Voilà, tout à fait. Le principe, c'est un véhicule simple qui peut s'assembler entièrement à la main avec une caisse à outils. Et donc, très rapidement, on peut changer les différents modules que l'on intègre sur le véhicule.
Ce qui peut paraître hallucinant aujourd'hui, alors qu'on parle de nouvelles technologies, qu'on a l'impression que les choses peuvent être très élaborées. Et tout à l'heure, vous nous disiez en plus qu'il fallait pouvoir s'adapter à toutes les évolutions possibles.
Bien sûr, en fait, le développement technologique, c'est pas toujours plus complexe. Hein. Des fois, on trouve de belles choses dans la simplicité. Et nous, c'est réellement notre ligne directrice, c'est de faire des choses pertinentes et simples que tout le monde puisse s'approprier, parce qu'on sait que les véhicules sont devenus de plus en plus compliqués aujourd'hui pour ajouter davantage de sécurité active et différents systèmes intelligents. Pour nos véhicules, quelque part, on aime bien dire qu'on ne souhaite pas faire des véhicules qui soient plus connectés ou plus intelligents que les personnes qui les conduisent. C'est pour être réellement en adéquation avec les gens qui sont à l'intérieur.
Alors le service, c'est ce qui caractérise souvent les développements à partir du numérique. Hein. On l'a vu avec le véhicule connecté. Cela se retrouve dans l'utilisation même de la voiture. Ce n'est pas Blablacar qui nous dira le contraire. Alors Kevin Degnaud, comment s'utilise aujourd'hui l'utilisation de Blablacar? Comment ça se passe? Notamment, c'est quoi le profil du conducteur Blablacar aujourd'hui?
Il y a plus de profil type, c'est-à-dire que au tout début de BlaBlaCar, c'était évidemment beaucoup de jeunes qui utilisaient le service. Aujourd'hui, on se rend compte que, par exemple, la catégorie d'âge qui augmente le plus rapidement sur BlaBlaCar sont les plus de 60 ans. Donc il y a vraiment une démocratisation et un réflexe qui s'est propagé. Je crois qu'il y a 30% de cadres qui sont conducteurs, après c'est les employés, après c'est des étudiants. Donc voilà, il y a plus de cadres que d'étudiants qui sont conducteurs sur BlaBlaCar, et la moyenne d'âge, on est à 33 ans pour les nouveaux conducteurs, avec une répartition assez équilibrée désormais. Donc on se rend compte que c'est vraiment ça touche toutes les générations et tout le monde.
Alors le covoiturage explose pour les trajets occasionnels, a priori moins pour les trajets réguliers, souvent professionnels.
Si le nombre d'utilisateurs se chiffre en millions pour BlaBlaCar, par exemple, eh bien les applications dédiées aux petits trajets ne comptent que quelques dizaines de milliers d'inscrits, c'est encore modeste. Pourtant, la marge de progression est évidente. Hein. Vous allez comprendre avec les chiffres de Frédéric Ville, la directrice générale d'Idevroom, la plateforme de la SNCF.
On cible les 19 millions de personnes qui vont en voiture au travail tous les jours. 80% sont seules dans leur voiture. Donc ça fait un potentiel énorme d'économie.
Aurore a, elle, choisi de partager sa 307 depuis le début du mois de mars, tous les jours avec Arnaud. Elle habite Levallois-Perret, lui tout près de la porte Champéret à Paris. Tous deux travaillent à Saint-Quentin en Yvelines.
Alors si Aurore et Arnaud se sont trouvés, c'est grâce à une application mise au point par Julien Honnard.
Il travaille avec les entreprises par zone d'activité. Sur Saint-Quentin, par exemple, il y a le technocentre de Renault, la SNECMA, le siège du Crédit Agricole, bref, des milliers d'employés. L'un des freins au développement de ce covoiturage court, c'est la contrainte ressentie, explique Julien Honnard.
Oui, on est très peu près à des concessions. Sur les horaires notamment, il vous faut absolument plusieurs possibilités pour rentrer le soir. Et puis sur l'itinéraire aussi, vous n'êtes pas prêt à faire un grand détour. On colle vraiment à votre trajet, on vous propose des gens pile sur ce trajet-là pour que vous ayez un détour minimum et maximiser les chances que le trajet vous intéresse.
Alors pour l'instant, 15% des salariés des entreprises de son panel covoiture.
15% du panel, hein, et assez peu en France, comme on vient de l'entendre, dans un extrait du 7-9 de France Inter l'an dernier. D'où vient le problème, selon vous, Guillaume McCain?
Alors, sur le covoiturage domicile-travail, parce que c'est vraiment cette partie-là qu'on discute, il y a un vrai besoin pour le conducteur de garder sa liberté. C'est-à-dire, je pars, plus ou moins 10 minutes de chez moi et je choisis un trajet qui va être modifié en cours de route en fonction des embouteillages. Donc je ne peux pas garantir de passer par telle et telle rue pour récupérer effectivement un certain nombre de covoitureurs ou covoiturés. Donc c'est la vraie problématique, c'est-à-dire que, et d'ailleurs le service, pour citer, hein, beaucoup de conducteurs utilisent des services d'optimisation de mon trajet, typiquement Waze, qui permet d'adapter son parcours en fonction des embouteillages. Et le défaut de ce service, c'est justement, par rapport au covoiturage domicile-travail, ben empêche le développement du domicile-travail, en tout cas dans son état actuel. Par contre, il y a des réflexions, et nous, chez Innov 360, on accompagne le projet SoMobility aujourd'hui, qui est un projet d'optimisation du trafic urbain sur le territoire d'Issy-Moulineau, du 92 et de la région, où justement, on est en train de rassembler un certain nombre d'entreprises, des grandes entreprises et donc le pool économique autour d'Issy-Moulineau, pour amener des nouveaux services de covoiturage domicile-travail au sein d'une zone économique limitée, contrôlée, et qui amène un flux plus ou moins identique des régions et des villes envoisinantes. Donc je pense que c'est la solution de demain, c'est de rapprocher les entreprises entre elles pour développer le service domicile-travail.
Alors les autres services qui se sont aussi développés, on commence à les connaître, hein, comme Autolib à Paris, qui permet d'utiliser avec un abonnement une flotte de véhicules pratiquement en service public. Avec le numérique, on assiste également à une multitude d'initiatives, par exemple celle de WeCar, dont nous sommes allés interroger la cofondatrice Marion Carrette.
L'idée, c'est de permettre à des gens qui ont une voiture, qui ne l'utilisent pas tous les jours, de la proposer en location à deux pas de chez eux. Le prix de la location, c'est un mix entre un prix à la journée et un nombre de kilomètres à parcourir. Notre objectif avec WeCar, c'est de diminuer le nombre de voitures. Aujourd'hui, il y a 40 millions de voitures en France et en moyenne, elles dorment 95% du temps. Aujourd'hui, on a 30 000 voitures à louer partout en France et on a 700 000 membres qui utilisent régulièrement la plateforme.
Alors, on entend, les chiffres sont hallucinants, hein, les voitures qui dorment, comme elle dit. Mais c'était pas un service pour vous, ça, BlaBlaCar, en fait ? De louer des voitures plutôt que de covoiturer, aussi louer les voitures entre particuliers.
En fait, c'est deux solutions complémentaires. C'est-à-dire que, comme l'a dit Marion Carrette, les voitures sont arrêtées 95% de leur temps. Et les 5% du temps qui reste, elles sont dans les bouchons où elles sont en train de chercher une place de parking, où il reste 2,7% du temps, elles font ce pour quoi elles ont été conçues, c'est-à-dire relier un point A à un point B. Donc on a deux gros problèmes majeurs, et si vous me permettez de continuer quelques chiffres encore, on a 38 millions de voitures en France. La flotte coûte en moyenne à entretenir entre 5 et 6 000 euros par voiture. Donc
par
vous faites
an,
le calcul par an, ça fait 200 milliards, soit l'équivalent de 10% du PIB. Donc on utilise 10% de notre richesse nationale à une ressource qui n'est pas utilisée 95% du temps. Et quand elle est utilisée, elle est sous-optimisée parce qu'il y a un passager en moyenne par
véhicule.
3 fois sur 4, il y a un conducteur à bord, une seule personne à bord. Donc l'autopartage permet justement d'améliorer l'utilisation de cette voiture et le covoiturage permet d'optimiser le trajet quand elle roule et bien d'avoir plus de personnes dans les voitures. Donc c'est vraiment deux solutions complémentaires si les personnes veulent louer leur voiture sur WeCar ou Drivey ou d'autres services et faire du covoiturage avec BlaBlaCar après, ils ont tout compris.
Mais vous parlez du poids économique, c'est essentiel, on le voit. Et d'ailleurs on voit dans les motivations de covoiturage ou d'autopartage, c'est souvent la préoccupation économique et pas forcément la préoccupation environnementale. Comment vous réagissez, vous qui faites de la voiture électrique, Simon Moncarelli ?
Non, mais bien entendu, la réalité économique, c'est celle qui prime, c'est le budget des ménages et avoir une solution de transport qui permet justement d'optimiser cela. Je pense que ça doit être notre souci à tous ceux qui travaillent dans le domaine de la mobilité. Aujourd'hui, nous, les véhicules que l'on fabrique et que l'on vend, on cherche justement à leur apporter d'autres fonctions que celles de juste se déplacer. On parlait du fait que les véhicules sont 95% du temps garés. Un véhicule électrique, c'est encore plus problématique parce que on a de l'énergie, du stockage d'énergie potentielle dans le véhicule. Si on ne s'en sert pas, c'est quelque part dommage. Donc nous, on peut imaginer d'utiliser les véhicules comme des éléments de redistribution énergétique à terme.
Alors, le principal écueil également, c'est la propriété du véhicule. Pendant des décennies, on nous a expliqué, vendu, que la voiture, c'était un signe de distinction, un objet de convoitise. Vous le disiez tout à l'heure, Guillaume Macaigne. Est-ce que maintenant, on peut juste expliquer à tout le monde que c'est juste un service ?
Alors, covoiturage, on en a parlé, c'est un service en tant que tel. Autopartage, on en a parlé, c'est aussi un service. On n'a pas besoin d'avoir le véhicule, d'en être propriétaire pour utiliser ces services-là. Donc c'est tout l'avantage. On parlait du gain économique comme premier facteur de motivation. Je pense qu'il y a aussi la nouvelle expérience qui est amenée avec ces services-là. C'est assez intéressant, à titre personnel. Moi, typiquement, j'ai pu louer un véhicule d'un particulier. Ça m'a coûté 50 euros pour 2 jours de déplacement à Toulouse. On est venu me chercher à l'aéroport. Nouvelle expérience. Je ramène le véhicule chez ce propriétaire. Il m'a ramené à l'aéroport. Ça m'a coûté 50 euros. Et en plus, j'ai loué un véhicule électrique. Donc, je n'ai même pas eu besoin de faire le plein en retour. Et forcément, j'en garde une belle expérience. Donc, certes, le premier facteur, c'est le gain économique. Deuxième facteur, c'est la nouvelle expérience. Confort, liberté. Et puis, je dirais, vraiment une vraie plus-value dans l'utilisation d'un véhicule.
Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux.
Malgré sa courte histoire, l'ère numérique est déjà jalonnée d'objets de convoitise, comme on dit, et qui nous ont fait rêver avant d'être parfois abandonnés. Aujourd'hui, nous revenons sur le Google Glass, projet du géant Internet envisagé en 2011, développé en 2012 par Google X Lab, qui travaille sur la voiture sans chauffeur, mais le projet est presque gelé depuis début 2015.
Okay, Glass.
Habituez-vous à les voir, ce sont des lunettes connectées. Accessoire bientôt incontournable.
Les gens nous regardent, on a l'impression t'as l'air d'un con en fait.
Le problème quand on a perdu ses lunettes, c'est qu'on est obligé de les retrouver pour pouvoir les chercher. Cette phrase de l'humoriste Gustave Parking a peut-être inspiré les ingénieurs d'Atoll qui ont inventé les lunettes connectées.
Comptez un peu moins de 1200 euros pour ces lunettes connectées, un produit high-tech prêt à inonder le marché.
Hi, what's up?
Hey.
Hey.
You want to say something cool?
Yeah, sure.
C'est assez léger puisque c'est du plastique. L'écran est en plexiglas. Le souci, c'est que en fait, l'écran, il est quand même, même si on voit bien, on est quand même très concentré sur l'écran qui est en haut comme ça, et on a finalement beaucoup de mal à voir son interlocuteur. Donc l'idée que ça nous permet plus d'être dans le monde qui nous entoure plutôt qu'en virtuel, je sais pas trop. Record vidéo, ça marche pas. Record vidéo.
Oh man, really?
Donc en fait, il faut vraiment faire attention à son accent, parce que sinon, il ne comprend que l'accent américain.
Il ne vous reste plus que 4 jours pour acheter les lunettes interactives Google Glass. Le géant américain de l'Internet met fin lundi à la vente de son prototype controversé. En cause, son appareil photo et sa caméra pouvant être déclenchés discrètement, ce qui suscite des craintes sur la protection de la vie privée. Google promet une nouvelle version.
Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Alors on ne sait pas si la voiture autonome connaîtra la même destinée. En tout cas, on peut penser que les services attachés à la voiture, eux, auront un peu plus de succès. Merci à nos invités, Guillaume McCain, directeur associé d'Innov360. Merci à vous, bon été. Merci. Kevin Degnaud, porte-parole de Blablacar. Merci à vous également d'être venu. Et Simon Mancarelli, directeur et cofondateur de XYT, donc une société qui produit des voitures électriques personnalisables. Merci à vous.
Merci.
Merci également à Morgan Tual, journaliste au Monde, partenaire de l'émission. Nous nous quittons sur ce magnifique générique de K2000, série des années 80 qui évoquait déjà la voiture intelligente et qui a fait rêver Hélène Bizio, la réalisatrice de l'émission. C'est fini pour aujourd'hui, mais pas pour demain, ou du moins pour samedi prochain, jour où on se retrouvera pour parler de sport et numérique au lendemain de l'ouverture des Jeux Olympiques de Rio. Ce magazine a été fait avec la collaboration éditoriale de Cap Digital, le pôle compétitivité de la transformation numérique. Il a donc été réalisé par notre grande adoratrice de K2000, avec l'aide aujourd'hui de Loïc Frapsos. Il a été préparé par Léa Dupuis-Yenquin et Béatrix Moreau et mis en musique par Thierry Dupin. Bon week-end à tous, pensez à vous déconnecter un peu, mais restez branchés sur France Inter.